France Info.
Et le 8.30 de France Info, c'est maintenant avec Jean-François Aquili et notre invité. Bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
Emmanuel Macron adresse les pires symboles aux femmes victimes de violences. Ça, c'est le titre de la tribune que vous avez publiée dans le journal Le Monde. En quoi, selon vous, puisque vous pointez notamment la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, c'est un mauvais signal qui est envoyé à la société ?
Vous savez, cette tribune, moi je l'ai écrite en raison d'une urgence. Une urgence à rappeler qu'il y a des pratiques et des comportements qu'on ne peut plus accepter de la part d'hommes de pouvoir, quel que soit le milieu ou le secteur. Mais on ne peut plus accepter des comportements et des pratiques de la part d'hommes de pouvoir, et a fortiori quand on est ministre de l'Intérieur. Alors la question, c'est pas de savoir, parce que c'est la question qui peut revenir, et moi effectivement je tiens à préciser cela, c'est pas de savoir si c'est pénal ou pas, mais est-ce qu'on peut encore accepter qu'un homme, compte tenu de sa position, de son statut, demande des faveurs sexuelles ou des actes forcés en contrepartie de quelque chose? Je trouve que c'est quand même une atteinte grave à la dignité des femmes. Donc depuis, d'ailleurs, que j'ai publié cette tribune, peut-être que vous, ça vous étonnera, moi ça ne m'a pas étonnée. J'ai reçu quand même, et je pèse mes mots, des centaines de messages de femmes. Et des centaines de messages de femmes qui effectivement m'ont dit, parfois on a peur de parler ou de dénoncer ces actes. Peur pourquoi ? D'abord parce que souvent, leur parole n'est pas crue. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans les propos qu'a reconnus M. Darmanin, il y a des propos très crus, avérés sur un comportement quand même pas acceptable humainement et concernant le respect et la dignité des femmes. Et puis, parfois, quand leur parole n'est pas crue, elles ont peur de représailles de la part de ces hommes de pouvoir. Parce que quand vous lisez cette tribune, c'est une tribune qui concerne la peur. La peur de dénoncer, ouais. La peur de parler. Et moi, je vous dis, vous pourrez en mettre en place, et je suis bien passée pour le savoir, nous avons fait beaucoup d'avancées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous savez, le gouvernement qui a fait plus dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans la mise en place de dispositifs et de lois, c'est quand même nous, et pour cause, parce que j'ai beaucoup écrit de dispositifs, mis en place des dispositifs. De dispositifs où on a fait voter des lois. Mais si vous avez peur, si les femmes ont peur, les dispositifs et les lois que vous ferez voter ne serviront à rien. Moi, je ne me résous pas à cela. C'est pour ça que j'ai souhaité le dénoncer et le rappeler.
Par-delà ces arguments, hein, est-ce que l'ancienne magistrate que vous êtes, vous le revendiquez régulièrement, elle peut s'asseoir, l'ancienne magistrate, sur la présomption d'innocence ?
Vous avez lu la tribune, Monsieur Aquili ?
Plusieurs fois même.
Alors, est-ce qu'à un seul moment, je mets en cause la présomption d'innocence ?
Non.
Vous faites bien de rappeler.
Mais c'est l'argument qui est sur la table, qui est régulièrement répété.
Oui, c'est l'argument. Voilà. C'est l'argument. Il faut arrêter de se cacher derrière des arguments. Il faut maintenant se confronter à la réalité. Est-ce que j'ai mis en cause la présomption d'innocence ? Vous avez rappelé mes anciennes fonctions. Et j'y suis très attachée. La présomption d'innocence, c'est indissociable de l'état de droit auquel je suis foncièrement, fondamentalement attachée. Mais la présomption d'innocence, ici, elle n'est pas mise en cause. Il s'agit d'un comportement et d'une pratique que M. Darmanin lui-même a reconnu. Mais l'affaire est en cours, puisqu'elle a été rouverte. Elle a été rouverte aussi grâce à la responsabilité et le courage du plus haut magistrat de France, Bertrand Louvel. Cette présomption d'innocence, l'affaire est en cours. Mais demain, M. Darmanin va être convoqué. Il va être convoqué par qui ? Qui va lui apporter la convocation ? C'est la police. Il va être convoqué par ceux dont il a la responsabilité hiérarchique. Il va être interrogé.
Pour vous, c'est un problème, ça, hein.
Il va être interrogé par quelqu'un dont la carrière dépend de M. Darmanin. Mais là, c'est encore beaucoup plus inquiétant que ça dépasse le droit des femmes. Donc, moi, je vous le dis. Le sujet aujourd'hui, c'est des pratiques, des comportements que M. Darmanin lui-même a reconnus, mais aussi sur la présomption d'innocence. Elle n'est pas mise en cause, bien évidemment, jamais. Vous savez, quand il y a eu des ministres qui
problème
ont été...
Problème de conflit d'intérêts plus que de présomption d'innocence, non,
mais,
pour vous ?
Mais ça veut dire quoi, conflit d'intérêts ?
Conflit d'intérêts avec sa position par rapport aux enquêteurs ou à la police qui serait en position de traiter cette affaire.
Est-ce qu'il est normal, quand vous êtes en position de pouvoir, de demander à une femme... C'est-à-dire que quand quelqu'un est en désespoir, est en difficulté, vient vous demander un logement ou autre chose, et que vous demandiez des faveurs sexuelles, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas.
Moi, ça me, c'est pas de mon avis qui est aujourd'hui
si,
en,
aussi...
en jeu.
Non, vous êtes
et
aussi...
en partie, mais ça n'est pas à moi d'être procureur sur
non,
cette question
pas,
et le, la question de votre,
non,
votre
c'est...
tribune.
Monsieur...
Elle se place sur la question du choix politique d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est intéressant.
Bah,
et ce que je veux dire par là, c'est que vous venez de citer la question des enquêteurs qui précisément auront à répondre de ce sujet par rapport à la présomption d'innocence. Ce qui vous gêne, c'est la question morale par rapport à des propos qui ont été relatés, ou est-ce que c'est la position de Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur par rapport à l'enquête? Simplement
est-ce que,
pour être
est-ce
clair
que
là-dessus.
Le respect et la dignité des femmes, c'est moral? C'est un droit fondamental.
Mm-hmm.
Voilà, c'est un principe.
Oui, ça dépasse la morale pour vous.
C'est pas de la morale, c'est un droit fondamental. Mm-hmm. La dignité des femmes, quand on vous impose des actes dégradants. Voilà. Donc il y a cet aspect-là de comportement et de pratique qui ont été reconnus dans les faits. Et l'autre aspect, c'est qu'à un moment donné, ils vont être convoqués. Mettez-vous à la place de la victime quand elle va être convoquée, sachant que les policiers qui peuvent l'interroger dépendent de la personne qu'elles ont mise en cause. Donc ça, c'est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant.
Vous avez vu les arguments de la défense, Rachida Dati, qui dit c'est une simple question de procédure, puisque l'enquête pour viol visant Gérald Darmanin a déjà été classée sans suite.
D'abord, sur ce classement, je vous le dis, cette affaire, elle a été rouverte. Aujourd'hui, l'affaire est en cours. Mmh. Elle n'est pas classée. Ça, c'est le premier point. Par qui a-t-elle été ouverte? Par Bertrand Louvel, qui était le plus haut magistrat français. Il a pris ses responsabilités. Il aurait pu dire, après tout, si c'est une question de forme, on peut laisser tel quel, puisqu'il y a une question de proportionnalité. Là, il a dit non. C'est rouvert. Et c'est pas une question de forme, puisque la question de fond va être abordée, parce que les personnes vont être entendues. Mais quel signal on envoie? On dit à la victime, non mais ça sert à rien. Et puis dans les classements, je peux vous le dire, il y a des femmes qui n'ont pas fait de recours. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas les moyens de payer un avocat, et que la procédure était trop longue, elle était trop coûteuse, et à un moment donné, quand vous avez un personnage public qui s'exprime, et maintenant ministre de l'Intérieur, ça peut peut-être effrayer. Ça revient à l'objet de ma tribune sur la peur. Il ne faut pas avoir peur. Si des personnalités publiques, comme moi, politiques engagées, si aujourd'hui on ne parle pas, à quoi ça sert de faire de la politique? C'est bien après de faire des articles dans Elle, de dire oui, la condition des femmes, c'est difficile, c'est pas difficile, mais là... C'est là où on doit effectivement être interpellé, interrogé et ne pas laisser passer.
On évoquera la question de la peur de votre tribune, Rachida Dati, et on vous laissera réagir aussi à la manière dont Emmanuel Macron et Jean Castex ont évoqué cette affaire cette semaine après le Fil Info à 8h40 avec Stéphane Milhomme.
Plus de 88% des lycéens auront ce soir une réponse sur Parcoursup, proposition pour étudier dans l'enseignement supérieur à la rentrée. La ministre Frédérique Vidal l'annonce sur France Info ce matin. 9500 élèves sont en attente d'une place. Elle promet pour ses nouveaux bacheliers un accompagnement. Taux de réussite record au bac. Cette année, les universités sont appelées à accueillir 50 000 bacheliers de plus par rapport aux prévisions. La ministre de l'enseignement supérieur assure cette fois qu'il y aura une solution pour chacun d'entre eux. Premier grand rendez-vous pour Jean Castex aujourd'hui face aux syndicats et patronales. Premier ministre anime dès 9h une conférence du dialogue social. Il entend détailler le calendrier du gouvernement sur les grands dossiers, à commencer par la réforme des retraites ou encore la question de l'assurance chômage. Depuis hier en Mayenne, le port du masque est obligatoire dans les lieux fermés qui accueillent du public. Face à une augmentation inquiétante du nombre de cas de Covid-19, mesures similaires mises en place dans toute la France dès le début de la semaine prochaine. Et puis près d'1 million de livres de la nièce de Donald Trump vendus en une seule journée, une évocation vitriol du président américain qui a tenté en vain de faire interdire ce livre. Livre qui sortira en France à l'automne prochain.
Le 8h30 France Info. Jean-François Aquili, Nicolas Taillard.
Et notre invité Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux, Jean-François Aquili.
Rachida Dati, est-ce que vous avez entendu les propos de Jean Castex, le Premier ministre qui répondait aux critiques relayées par une sénatrice socialiste hier lors de la séance des questions au gouvernement au Sénat?
Monsieur Darmanin a droit au respect des principes de la République comme tous les citoyens. Comme tous les citoyens, nous assistons à des dérives qui sont inadmissibles. Je le dis ici avec solennité et gravité.
Votre tribune est une dérive inadmissible, Rachida Dati.
La dérive inadmissible, c'est d'avoir comme ministre de l'Intérieur quelqu'un qui a un comportement et des pratiques indignes. Voilà. Et donc, c'est pas une dérive, ma tribune. Je dénonce quelque chose qui ne doit plus se pratiquer. Les violences sexuelles ont augmenté de plus de 12% en 2019. Les viols de plus de 19% en 2019. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous pensez que ce type de propos et que ce type d'actes, on doit laisser faire? Vous pensez que ça va encourager les femmes à aller dénoncer les actes? Vous savez, c'est très compliqué. Lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur, puis comme garde des Sceaux, nous avons mis en place des psychologues et des travailleurs sociaux au sein des commissariats des gendarmeries pour les violences faites aux femmes. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est très dur pour une femme de dénoncer des actes dégradants, des actes... Effectivement, ça peut ne pas être un viol. Ça peut ne pas être un viol. Mais le seul fait de qu'on impose des actes dégradants à une femme, sans contrainte forcément, mais parce que ce sont des personnes qui sont en désespoir, est-ce qu'on doit l'accepter?
Cette question, en l'occurrence, de la peur et de la plainte, Rachida Dati, elle a été évoquée lors du Grenelle des violences conjugales à l'automne dernier. Pourquoi, si le thème de cette tribune est la peur et le choix de la nomination de Gérald Darmanin, l'avoir entamé par une critique de l'instrumentalisation politique, notamment à travers le choix de faire revenir au Parlement des questions comme la PMA? Quel est le rapport?
Non, parce que...
C'est le début de votre tribune,
j'ai bien lu avec attention. Justement, ça me donnera... justement, pour finir sur le propos précédent, M. Castex dit « M. Darmanin est un citoyen comme un autre ». Non, il n'est pas un citoyen comme un autre. Il est ministre de l'Intérieur.
Vous voulez dire, s'il est blanchi, il ne peut pas rester, grosso modo?
Non, c'est pas ça. Mais l'affaire est en cours. Il est chef de la police. Il est chef, la carrière des policiers qui vont être amenés à faire des actes d'investigation, des actes d'audition, voire de perquisition, la carrière de ces personnes dépend de M. Darmanin. Mettez-vous à la place de la victime. Vous pensez qu'elle va être à l'aise pour aller témoigner? Et sur le début de la tribune, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai entendu de la part de Mme Schiappa, de la part de M. Darmanin, de la part de Mme Buzyn, en disant que je n'avais pas les mêmes valeurs que les leurs, que nous étions homophobes, que nous étions pour la manif pour tous. Moi, je n'ai jamais participé à ce type de manifestation. Et sur la PMA, c'est ce que j'explique au départ. C'est qu'effectivement, à chaque fois, on a instrumentalisé ces questions pour, évidemment, diviser, j'allais dire même détruire la droite. Mais tout ce qui est question liée à la filiation, je cite des références, Mme Agazinski, Mme Abécassis, tout ce qui est, il relève de la filiation, de la maternité.
Quel est le lien avec l'affaire Gérald Darmanin?
Non, mais sur le droit des femmes, le sujet des droits des femmes, forcément ça interroge. C'est pas un sujet facile.
Jean-François Killy.
Rachida Dati, Jean Castex veut une loi pour lutter contre le séparatisme islamiste. Il s'agira avec ce texte, dit-il, d'éviter que certains groupes ne se referment autour d'appartenances ethniques ou religieuses. Encore une loi, hein?
D'abord, c'est quoi le séparatisme? Parce que vous savez, on change de mot en fonction, comme quand on règle pas un problème, on change le vocabulaire, pensant que c'est un nouveau problème. Non, c'est un problème ancien, le séparatisme. C'est quoi le séparatisme, pour faire simple? C'est le refus de la République. Il y a deux moyens. Un, effectivement, avec une politique pénale claire et ferme. J'en ai pas entendu. Moi, j'ai pas entendu de politique pénale claire et ferme.
Le sujet était déjà là quand vous étiez aux affaires.
Bien sûr, mais vous savez, nous, on s'en est préoccupés. On a mis en place des dispositifs qui ont été supprimés par la gauche, notamment pour lutter contre les inégalités à l'école, avec les internats d'excellence, sur l'apprentissage. Effectivement, l'apprentissage a fortement augmenté lorsque nous étions au pouvoir. Il a fortement diminué sous François Hollande.
Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui? On ne va pas refaire le bilan d'il y a 10 ans, Rachida Dati. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui?
Les bourses au mérite ont été supprimées par la gauche. Aujourd'hui, le sujet, il y a la loi de 1905. Cette loi, elle comporte quoi? C'est une loi sur la liberté de conscience et de religion. Il y a des sanctions dans cette loi. C'est-à-dire que vous êtes sanctionné si vous apposez à quelqu'un une religion ou une idéologie.
Donc la loi d'aujourd'hui suffit?
Non, mais peut-être que les quantum de peine, les sanctions, peut-être doivent-elles être aggravées. Mais la loi existe déjà. L'autre aspect, c'est ce que je vous ai dit, il faut lutter contre les inégalités, avoir une politique de formation beaucoup plus adaptée. Le gouvernement revient à Martine Aubry, les emplois jeunes. Les emplois jeunes, ça n'a jamais fait une politique d'emploi pour les jeunes. Et puis le troisième aspect, c'est l'ANRU. On a mis des milliards, pour quel résultat? Plus d'insécurité, plus de ghettos, plus,
rénovation urbaine,
plus de d'insécurité et de communautarisme. Moi, je vous invite à lire ce livre d'une de vos consoeurs. Tout y est sur le séparatisme, avec la complicité des élus de la République.
Le titre, peut-être, pour ceux qui nous écoutent.
Le maire et les barbares. Ce livre est extraordinaire. Il y a des propos, des témoignages de préfets. Moi, franchement, j'invite la justice à s'emparer de ce livre. Parce que si les faits, je pense qu'ils sont vrais pour connaître la situation, ça relève du pénal. Ça, Voilà, vous avez des élus qui contribuent au séparatisme par clientélisme. Tout est dans ce livre. Moi, j'ai trouvé ce livre formidable. Et effectivement, la justice devrait s'en emparer.
Vous estimez que c'est d'abord une question d'élus ?
Mais parce qu'à un moment donné, quand on ne veut pas régler le problème, certains élus l'ont aggravé.
Vous évoquez la justice, les juges d'instruction dans l'affaire Traoré ordonnent 14 nouvelles investigations. Fallait-il le faire ? Faut-il relancer les enquêtes ?
Cette affaire, moi je l'ai toujours dit dès le départ, cette affaire Traoré était mal partie judiciairement. Il y a eu un dépaysement, des expertises qui ont été contredites. Il y a eu aussi un manque de transparence. Donc dès le départ, cette affaire n'a pas inspiré confiance à aucune des parties. Personne n'est satisfait. Et donc aujourd'hui qu'il y ait des actes d'investigation, je trouve que c'est à l'honneur de la justice. Il faut que cette affaire...
C'est une manière à apaiser la situation.
Bien sûr. Vous savez, moi, lorsque j'étais garde des Sceaux, il y a eu des affaires très sensibles sur lesquelles nous avons pu travailler. Les ouvertures d'informations permettent aussi d'apaiser. Pourquoi ? Parce que chaque partie a accès au dossier. Mais là, effectivement, la reprise des investigations peut effectivement contribuer à un apaisement de cette affaire.
Rachid Zadati, une question très politique mais très personnelle finalement qui vous concerne. On a vu Jean Castex, Premier ministre issu de vos rangs, ça a été dit et redit. Est-ce que vous avez la sensation qu'au fond l'œuvre, l'entreprise de siphonnage des Républicains est toujours en marche ? Et est-ce que vous y voyez-vous une opportunité, pardonnez-moi le mot, pour peut-être vous positionner pour essayer de faire repartir cette famille, de lui trouver ses nouvelles bases ?
Vous savez, c'est pas une question de personne, c'est une question d'idée et de projet. Moi, je considère aujourd'hui que nous n'avons pas le même projet qu'Emmanuel Macron en termes de relance économique. Ne serait-ce que la politique. Effectivement, il y a un vrai sujet du chômage des jeunes. La politique de l'emploi pour les jeunes, ça n'est pas les emplois jeunes qui ont été créés par Martine Aubry. C'est pas le service civique qui ne conduit pas à un emploi, qui peut occuper, qui peut donner une petite expérience. Moi, je suis favorable et ça n'a jamais été évoqué. Vous savez, là, pour le coup, c'est du terrain. C'est de pouvoir revoir les formations, notamment les formations supérieures. J'ai parlé effectivement école maternelle, école primaire, notamment avec des études dirigées, les internats d'excellence, les bourses au mérite. Sur les formations supérieures, aujourd'hui, vous avez des formations supérieures, chacun est dans son couloir, il n'y a pas de passerelle. Il faut pouvoir avoir des passerelles d'une formation à une autre pour pouvoir changer de métier et adapter aux nouvelles évolutions de l'industrie française, aux nouveaux services, c'est-à-dire que se tourner vers l'avenir avec...
Donc vous n'êtes pas les mêmes.
On n'a pas les mêmes. Et sur la sécurité, nous n'avons pas la même vision. Sur l'écologie, nous n'avons pas la même vision. Et je veux dire, donc on n'a pas beaucoup de choses en commun.
Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Rachida Dati, avec plaisir. En tout cas, on aura le temps de parler projet dans leur ensemble. Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, invité du 8-30 de France Info avec Jean-François Aquili.